Thank you. Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
L'édito du lundi 19 juin 2023 du Monde Merveilleux d'après. Le syndicalisme révolutionnaire, est-ce un groupement de travailleurs marginaux, une doctrine pour les masses laborieuses, une solution à la question sociale en souffrance ? Est-ce l'organisation future d'un prolétariat qui s'ignore ? L'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire, c'est une dynamique sociale et politique qui n'a encore pas donné son potentiel. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, nous avons une solution. La syndicalisation de la société sur des bases fédéralistes et révolutionnaires. Car si vous comptez sur l'état-major des armées pour arrêter les conflits et les violences sexuelles, ben, vous êtes bien naïfs. Alors, par quoi on commence ? Vous le saurez à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail. Et tout de suite, sans haine ni passion, nous enchaînons sur notre chronique collectif de l'almanach culturel de l'actualité brûlante, qui n'a pas précisément de thème.
Et oui, qui n'a pas précisément de thème, mais qui est de l'actualité immédiate et brûlante.
Déguisés en flics, sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
Et vous savez, quand il est agent, c'est le plus charmant des hommes, avec même de l'éducation.
Et instruit, capable de causer tout.
Chers auditeurs et chères auditrices, liberté, égalité, fraternité, ça, c'est de la formule où je ne m'y connais pas. C'est ce pourquoi les peuples et les gouvernements démocratiques tiques ont toujours lutté. Bon, ça sonne un peu creux. Hier, Macron a célébré l'appel du 18 juin. Il aurait pu célébrer la pioche ou le tournevis, lancé par le général de Gaulle, qui n'était que colonel en 1940. Cet appel du 18 juin 1940, que personne ou presque n'aura fumé à la TSF, à cette date, mais dont tout le monde aura pris connaissance après les affiches sauvages, je cite, dans les rues, quelques jours plus tard, comme les banderoles dans les manifs que la police arrache des mains de nos black blocs. Que cela ait inspiré un esprit de résistance spontané ou non, le fait que des personnes ont pris part au sabotage du régime d'oppression et d'occupation étrangère du pays dans lequel ils vivaient. Là, ce qui nous conduit au premier point, la libéralité ou la liberté du pouvoir.
Entre ici, Manouchian. Alors, pas encore, mais presque. Le 21 février 2024, le héros de la résistance FTP Moy, Ce cadre de l'international communiste va entrer au Panthéon. Je ne sais pas si ça lui aurait plu à Manoukian. Ouais, je sais pas si on dit Manoukian, j'ai toujours dit Manoukian. De savoir que c'est un président directeur général de la France libérale qui lui fait cet honneur. On peut se poser la question. Lui, le travailleur émigré, l'Arménien qui chantait la bohème dans le maquis parisien. Dans le même temps, Macron fait une proposition de loi immigration pour une gestion plus humaine et moins absurde. En d'autres termes, effectuer une sélection à l'entrée. Son idole, le maréchal Pétain, lui, l'a faite à la sortie, via le Veldiv. Entre ici, Manoukian! Il s'est fait fusiller pour que Darmanin réprime les manifestants qui luttent contre des projets antisociaux et pro-industriels et menace d'interdire les soulèvements de la terre qui, en Maurienne, c'est-à-dire en Savoie, sont contre la ligne ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin. Que nous disent les médias ?
Eh ben, les gars, c'est l'égalité aussi. Je cite le 20 minutes du 17 juin 2023. Derrière la banderole, en deux têtes, annonçant, la montagne se soulève. Allez, drôle. Se mêlent jeunes aux visages camouflés, militants équipés de casques, de parapluies. Ben, avec le temps qui fait, c'est pas étonnant. Et de masques à gaz, personnes plus âgées se protégeant du soleil sous un chapeau de paille. De toute façon, on ne sait plus à quel sens. Oui, le temps change tous les jours, même fois, plusieurs fois par jour. Je cite, faites attention à vous. Souffle une dame à un groupe de jeunes en train de revêtir des équipements de protection. Faites le plein de cailloux. La vallée de la Maurienne, il y en a des cailloux. Il faut reboucher le tunnel. Ah, putain, ouais, c'est un peu dur là. Lance pour sa part ironiquement une jeune femme en tenue de black bloc. On notera même un traitement de fond par tous les journalistes et sur les mêmes thèmes. Soutien de la doxa démocratique bourgeoise comme forme naturelle de pouvoir. Oui, ne pas objecter celle-ci, relayer les infos nécessaires au bon fonctionnement de l'État, inviter des spécialistes ou plutôt des techniciens en leur matière et qui ne remettront pas en cause les éventuels méfaits de ce qu'ils viennent discuter. Et pour couronner le tout, inviter des PDG, bah oui, ce que disait mon camarade à l'instant, qui font le tour du monde en jet privé. Ben c'est normal, leur chef aussi fait le tour du monde en jet privé, payé par pour nous d'ailleurs. Pour nous expliquer, d'un état à l'autre, comment réduire l'effet de serre et la pollution mondiale, ou comment préserver la nature, bien sûr. En plantant des éoliennes dans le paysage rural, dont l'énergie propre va se confondre avec l'énergie nucléaire nécessaire au bon fonctionnement des vélos électriques, va pas falloir les foutre dehors, tout de suite nos migrants. Si on doit planter des éoliennes de 30 mètres de haut, alors la police, tout ça...
Oui, mais alors, je voulais quand même dire, la tenue officielle, comme à Sainte-Soline, en Savoie, c'était le bleu pour rappeler le combat de l'eau. Et là encore, c'est pour dénoncer l'utilisation de l'eau pour construire ce tunnel que l'on creuse à flanc de montagne. Fraternité de la police, la manif du 6 juin... a marqué la fin des mobilisations syndicales unitaires contre la réforme des retraites. Ouf ! Nos flics n'en pouvaient plus. Ils sont fatigués de taper. Mais ils aiment ça quand même. Pourtant, il faut remplir les quotas, aura-t-on entendu d'un de leurs supérieurs. Arrêtez-moi tout ça. Et ça cogne à droite, à gauche, même sur ceux qui sont assis dans l'herbe sur la place de la Nation. Nous noterons que des problèmes de livraison majeurs vont empêcher de disposer du matériel nécessaire à toute bonne manif. Si on ne peut plus compter sur Uber, feu d'artifice, où va-t-on ? Du coup, ça n'a pas été l'apothéose. Pourtant, il y avait un gros déploiement de flics en civil, une infiltration discrète des Black Blocs. Vous les reconnaissez ? Ils ont des oreillettes et quand vous en repérez un, hop, il sort son iPhone pour vous faire croire qu'il est comme tout le monde. Mais non, il vous filme. Et ça, vous le savez, parce que quand on place son téléphone sur son oreille, on laisse rarement son oreillette. Eh oui, gaulé. Le 27 juin, à Nantes, les dules ont quand même lancé des lacrymos sur 4 personnes. Ils étaient plus, ils étaient 10. Pour 3 fumigènes et une banderole. La menace était suffisamment grande pour que la police estime nécessaire de gazer l'ensemble du miroir d'eau. Voilà, cette petite place là. Où jouent des mômes. Et les passants s'indignent. Les quotas. Ils sont rendus compte à la caserne qu'ils n'avaient pas utilisé tout leur stock. Et aussi, c'est la manière à eux de commémorer le 6 juin 44, donc le débarquement des Alliés en France, occupé par des migrants allemands, voire nazis. Mais plus allemands quand même.
Mais oui, mais... oui, alors, que tirer de tout cela ? Que tirer de tout cela ? Nantes, les... Nantes avec nos jeunes qui se sont fait gazer. La belle Lamaurienne avec de la répression plus qu'il n'en faut. Et puis... Et en fait, c'est dans la continuité. Alors, ils ont l'air fatigués, la police, mais c'est dans la continuité de toute l'œuvre antisociale.
Eh ben justement, je vais aller faire une petite chanson pour la police. Moi.
Ouais, pas les louper. Suite.
Tout de suite. Je vous dis ça.
Presque
tout de suite, hein. Presque. Ah bah oui, je l'entends pas forcément.
Ah bah aujourd'hui on a un bon four au moulin. Hein.
Bah oui, notre technicien n'est pas venu donc.
Tonight we get even.
C'était Cop Killer de Body Count avec Ice-T, chanteur qui est devenu comédien aussi, qui interprète beaucoup de rôles de flics. Voilà. Un cop killer, c'est un ambigu, ils ont eu des problèmes, parce que c'est à la fois tueur de flics et flic tueur. Voilà.
Ça va, c'est l'espèce d'ambiguïté de la langue anglaise, toujours.
Et oui.
Mais ça peut passer devant un tribunal.
Ah, ils ont eu des problèmes. Oui. Mais enfin bon, c'est en 92, hein, depuis c'est réglé.
Oui, et puis ils ont toujours des problèmes. Ils ont d'autres problèmes. Bon. Donc cette émission, un peu, Calix est tombé sous le sens, hein. on avait besoin de, me semble-t-il, faire un point sur, sur la CNT, et surtout le syndicalisme révolutionnaire.
Mais on dit toujours.
Alors toi qui es le maître absolu de la Doxa,
oui.
le sage sur la montagne.
Le singe.
Le singe, hein. tu peux nous donner une définition et donner à nos amis.
Mais tu vas pas nous faire chier à chaque fois des définitions.
Une définition, mais si, c'est important de définir pour savoir ce qu'on est, ce qu'on fait. Ah, puis où on va, puis voilà, donc il faut savoir d'où on part. Ah, bon, bref. Qu'est-ce que c'est que le syndicalisme révolutionnaire, hein, monsieur?
C'est un groupement de travailleurs qui veut non seulement. Enfin, alors, oui, on veut dire que c'est une doctrine.
Mais c'est pas un gros mot. Hein.
Oui, je le prends. Oui, chers auditeurs et auditrices, c'est pas un gros mot. C'est une doctrine qui qui est l'expression aussi, en fait, de la conscience de classe des travailleurs et des travailleuses, et qui se matérialise dans des syndicats. Des syndicats, on va dire, fédéralistes, sur une base fédérale, en tout cas, et non autoritaires. Alors, c'est vrai que l'histoire du le syndicalisme révolutionnaire a évolué. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme. Il y a quand même l'apport des camarades espagnols, qui n'est pas à négliger. Mais les syndicalistes révolutionnaires ont toujours été des anarcho-syndicalistes, parce que c'est vrai que l'idéologie anarchiste a toujours été assez présente. Enfin, elle a beaucoup accompagné, pas que, mais ça a construit aussi la pensée syndicale. Voilà, le syndicalisme révolutionnaire. Alors moi, je dirais le syndicalisme révolutionnaire, mais quand je dis ça, il faut comprendre syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme. Voilà, pour moi, le terme générique englobe les deux termes. Mmh. Hein, je ne vais pas répéter. Bon, entre nous, quand on s'envoie des courriers, on dit à SSR. Mmh. On va pas dire à SSR à l'antenne. Mais je vais m'en tenir à syndicalisme révolutionnaire. Mais sachez que nous sommes des anarcho-syndicalistes. Et non pas des syndicats anarchistes.
Ah oui,
c'est pas tout à fait la même chose, oui. En fait.
Oui, non, mais c'est même pas du tout la même chose.
Et voilà. Et donc, il y a peut-être autre. Voilà. Et donc, alors, le syndicalisme révolutionnaire a aussi évolué au départ, à sa création. Moi, je citerais plutôt en 1901. C'est vraiment l'action de Pelloutier qui a donné ses formes au syndicalisme révolutionnaire. Il y avait quand même des permanents syndicaux. Donc il y a eu une critique quand même de certains anarchistes, et notamment Malatesta en 1907 au congrès d'Amsterdam, congrès anarchiste d'Amsterdam. Et je crois que ça a été quand même relativement pris en compte, consciemment ou inconsciemment, mais avec le temps, puisque aujourd'hui, à la CNT, à la Confédération Nationale du Travail...
Des Vignoles.
Des Vignoles. Oui, mais l'autre CNT, c'est la Confédération Nationale des Travailleurs. Ah, oui. C'est pas la même CNT. Oui.
C'est le même acronyme.
Voilà. Et puis eux, ils sont anarcho-syndicalistes. Ce qui me fait bien marrer quand on connaît les gens qui sont dedans. Ils sont que anarcho-syndicalistes. Bon, voilà. Nous, c'est la forme traditionnelle. C'est l'évolution, on va dire, naturelle du syndicalisme révolutionnaire depuis sa création. Sauf qu'on s'est, séparés de tout ce qui pouvait apparaître comme étant, alors, non pas autoritaire, mais avoir des permanents syndicaux, en tout cas. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre CNT. Et nous, il n'y a pas de rémunération. Donc voilà, il n'y a pas du tout de rémunération. Il n'y a pas de permanents syndicaux, pas de rémunération. Et
Mais d'ailleurs, on le dit très bien, nous, lors de l'introduction de l'émission maintenant quasi mythique du monde merveilleux du travail, c'est sur nos heures de loisirs qu'on anime l'émission et aussi qu'on milite.
On pourrait le faire sur nos ordres de délégation.
Sur nos ordres de travail.
Ça ne poserait
aucun
problème. Oui.
Alors, qu'est-ce qui. Le premier point, en fait, qu'il faut rappeler, peut-être un des points fondateurs, c'est que ça a été dit dans la charte d'Amiens, écrit dans la charte d'Amiens, c'est l'un des. D'abord, c'est la lutte de classe, la reconnaissance de la lutte des classes.
Ouais.
Ça, c'est un point fondamental. Qui a un peu oublié aujourd'hui, depuis, on va dire, depuis 20-30 ans. Je crois que ça s'est un petit peu. À part la CNT, hein. Puis là, dans les autres, la CGT, ce qui reste de la CGT, qui est toujours la CGT, ça a tendance à revenir dans certains syndicats, mais ce n'est pas la Confédération qui revendique.
Ah voilà, c'est qu'il peut y avoir des syndicats ou des sections dans les syndicats qui sont attachés à la lutte des classes.
Voilà.
Ils font bien le distinguo, mais malheureusement, c'est pas ce que ces personnes qui font le syndicalisme révolutionnaire, c'est aussi la Confédération, les statuts de la Confédération. C'est important aussi, nous, donc, on fonctionne avec des statuts, et dedans, il y a des termes qui sont assez clairs. On ne défend pas des salariés, on ne considère pas. C'est des travailleurs et ou des producteurs. Alors, les productrices aussi, hein, vous féminiserez, chers auditeurs, auditrices, mais je ne veux pas passer mon temps qu'à ça. Donc, voilà, c'est... Bon, après, voilà. Alors les statuts de la CNT actuelle, les camarades ont fait l'effort, effectivement, en 2008, de féminiser les terminologies. C'était déjà pas super lisible, mais alors là... ils ont allégé quand même, effectivement, en supprimant effectivement tout ce qui pouvait apparaître comme étant du... Parce que jusqu'en 2007, on va dire, donc, les permanents syndicaux étaient possibles. Bref. Donc, il y a des statuts qui régissent le fonctionnement, qui donnent une orientation politique... Et il y a la charte du syndicalisme révolutionnaire aussi. Moi, j'y suis assez attaché, donc qui date de 1926. Et donc là, c'était la création de la CGT-SR. Donc là, ça était la création d'une confédération qui était proprement syndicaliste révolutionnaire. Parce que de 1909, on va dire, à 1925-26, Et il y a eu, encore après, une tendance syndicaliste révolutionnaire, mais dans une confédération qui ne l'était plus. Parce qu'elle avait participé à l'entrée de la Première Guerre mondiale, il y a l'Union sacrée. Et puis, c'est déjà pas mal.
C'est une trahison absolue, de la lutte des classes, des engagements initiaux que contient la charte d'Amiens. Hein. Déjà, c'était donc à la limite. Et puis, c'est le rapprochement des partis politiques. L'entrée en guerre, ça a été. C'est finalement les années d'avant-guerre, d'avant la Première Guerre mondiale. C'est aussi le rapprochement de certains syndicalistes avec les socialistes organisant un parti politique. Et donc, un petit peu une trahison de l'autonomie des syndicats.
On retrouve avec les autres. Syndic confédération, on retrouve toujours ce schéma. Ça peut être la CGT, d'abord, elle était proche du Parti communiste. Dans les années 80, proche du gouvernement Mitterrand. Et puis récemment, on a quand même entendu, lors des dernières élections présidentielles, j'ai entendu Martinez, effectivement, de faire barrage. Au Front National, donc, il a peut-être pas dit explicitement faut voter pour Macron, mais dans la mesure où il y a que deux candidats, il faut faire barrage au Front National, enfin Rassemblement National, excusez-moi. Aussi, hein. Et non, alors déjà ils sont plus dans le cadre de la charte d'Amiens. Mm. Parce que là, ça veut dire que ils prennent parti pour leur régime. Républicain bourgeois qui est en place.
C'est une validation, effectivement, de... Et c'est contre-productif, ça va même... C'est antinomique. C'est antinomique et contre-productif. Et finalement, c'est simplement dire qu'ils ne sont plus des syndicalistes, peut-être.
Ben, oui, ils font de la politique.
Ils font de la politique. Voilà. Et pourtant, on a posé la question à monsieur... comment s'appelle-t-il déjà? J'ai entendu ça sur les ondes. Berger, est-ce qu'il allait maintenant? Parce qu'il quitte la direction de la... Pareil, c'est plus le chef de la CFDT. Donc, Merle, vous dites, est-ce que vous avez un avenir politique? Est-ce que vous allez faire de la politique maintenant, monsieur Berger? Oh, ben non.
Bah,
on attendra de voir. Il n'a pas cessé d'en faire.
Mais bon, il fera comme ça, là, près des... Comment on dit? Près des...
Décesseurs. Son prédécesseur femme qui était...
Nicole Nolta.
Ouais.
Ouais, il en a peut-être eu un avant, je ne sais plus.
Oh,
enfin bon,
oh,
bref. Ouais. Voilà.
Il n'y a pas Chirac, un truc comme ça. Donc,
ah, il y a eu Chirac. Ouais, c'est Chirac, ouais, c'est Chirac. Ouais. Et avant, enfin ouais. Bon. Mais avant Chirac, c'était Nolta. On a vu ce qu'elle est devenue.
Bah, oui.
Chef d'entreprise.
Bah oui.
Enfin, entre autres. Oui, donc, alors... Bah après, alors c'est quand même étonnant que tous les confédérations, les syndicats et de toute façon la loi, là, les législateurs prêtent aux syndicats l'autonomie, enfin prêtent aux syndicats leur autonomie, ça veut rien dire, mais on accorde le statut de syndicat à tout syndicat et confédération qui respecte la charte d'Amiens. Ah, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, la charte d'Amiens. Bon, on est loin du compte, hein, quand même. Hein.
Ah oui, plutôt, oui.
Hein, parce que quand je dis, elle prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Il préconise comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de producteurs et de répartition. Base de réorganisation sociale. Bien. On est loin du compte. Hein, quand ils appellent à voter, à faire barrage.
Ouais. Non, mais il n'y a aucune volonté d'organiser. Il ne s'agit pas de réorganiser. Il n'y a aucune volonté d'organiser quoi que ce soit, si ce n'est de succéder à eux-mêmes sur la base de, j'allais dire, d'une institution. Une institution qui est quasiment bourgeoise. Hein, non, c'est... Et puis, hiérarchique.
Mm.
Donc... En fait, c'est ni plus ni moins. Oui, c'est une forme de trahison de la charte d'Amiens. Donc,
Mais pourtant, tout le monde s'en revendique.
Ouais,
c'est paradoxe.
Ouais. Mais voilà, c'est bien de le dire à l'antenne, et notamment, alors, on n'a pas des millions d'auditeurs, mais tous les camarades qui seraient libertaires, de manière générale. Qui ne serait pas à la CNT, et ben c'est pas le bon choix.
Et puis il y en a.
Ce n'est pas le bon choix, vous dis-je. Ne vous regardez plus dans le miroir.
Alors justement, qui est-ce qui formerait, aujourd'hui en tout cas, le cheptel? Ça c'est plus pour la CFDT.
Voilà, on avait compris.
Mais... le cheptel d'adhérents, hein? Non, je sais pas, parce que on va quand même parler, on va pas parler que du syndicalisme révolutionnaire d'avant.
Oui.
On fera forcément des retours.
Bien sûr.
Mais essayer d'en parler aujourd'hui.
Oui.
Parce que la société a évolué aussi. Mmh. Alors effectivement, je pense qu'à son époque, donc le syndicalisme révolutionnaire, il répondait aux attentes des producteurs, des productrices, travailleurs, travailleuses de leur époque.
Mmh.
Enfin, de son époque, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en phase?
Alors
ça, c'est un peu plus difficile.
Alors, en phase, c'est pas le mot que je dirais. Je dirais qu'on est... si on était en phase, là, aujourd'hui, ou si on avait été en phase il y a 3 mois, on aurait renversé la table. Tu comprends ce que je veux dire?
Ah oui.
Voilà. On n'est pas en phase. Être en phase, c'est être... avoir tous la même volonté, le même objectif en même temps. Et ça, ça arrive parfois, ça arrive, ça, et ça fait des grandes choses en général. Alors après, tout dépend de ce qu'on en fait ensuite, hein, mais ça crée le grand événement qui peut amener des grands changements, des grands bouleversements. Ça n'a pas été le cas. Donc là, en phase, moi, je oui, considère que c'est pas...
C'est, non, mais c'est bien... C'était pas le terme, peut-être.
Mais c'est bien de l'avoir dit, parce que, effectivement, c'est ce qui est attendu, finalement, par les syndicalistes révolutionnaires ou une partie des militants révolutionnaires. C'est cette phase, cette petite ouverture qui fait que ça crée un mouvement ensuite qui peut amener à des grands bouleversements et des changements radicaux. Il faudrait pas que ça nous vienne des éléments extérieurs, par exemple. C'est-à-dire, je pense notamment avec tout ce qui se passe en ce moment en termes de perturbations climatiques et autres, parce qu'un grand bouleversement, ça pourrait être radicalement... mettre un terme définitif à toute forme d'exploitation capitaliste pour quelques millions d'années. Bon, mais voilà, c'est pas ça que je pensais, mais bon, c'est pas impossible qu'on y vienne aussi. Par contre, aujourd'hui, on reste, nous, enfin en tout cas la CNT, le syndicalisme révolutionnaire, reste peut-être pas en phase, mais reste sur une ligne qui est peut-être une ligne, alors je sais pas, d'avant-garde, mais en tout cas une ligne qui est toujours valable, même si elle l'était déjà en 1895, en 1926, elle l'a été en 1946 avec la création de la CNT française, elle l'est encore aujourd'hui, c'est la lutte des classes. Comme principe, c'est ce que tu as énoncé tout à l'heure, la grève générale comme moyen de renverser la table, justement. Ça veut dire derrière une conscience des travailleurs, de leur pouvoir, parce que c'est pas autre chose. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre le pouvoir? Est-ce que les travailleurs ont vraiment envie de prendre le pouvoir pour changer le modèle dans lequel ils souffrent ou par lequel ils souffrent? Ça, en fait, c'est la grande question.
Alors, quand on parle de pouvoir, c'est de pouvoir... Un pouvoir collectif,
bien sûr.
C'est pas un pouvoir personnel.
Ah non.
Non, mais je dis comme les, sur les ondes de Radio Libertaire, pourrait faire bondir certaines camarades.
C'est du collectif, mais, de toute façon. C'est du syndicalisme, on sent que c'est forcément du collectif.
C'est du pouvoir dans la mesure où on ne laisse pas à quelques individus qui vont décider pour nous de comment on travaille, comment on doit travailler, ce qu'on gagne, et de ce qu'on doit faire, et sur quels horaires on doit le faire, et où on doit le faire.
Exactement. Donc on est, moi je pense que ça reste un sujet mais d'une actualité terrible.
Ben, alors c'est mon point de vue aussi, hein, sinon je serais pas syndicaliste révolutionnaire. Le problème c'est que la société a évolué et les travailleurs et travailleuses, en ayant des meilleures conditions de vie, se sont quand même éloignés de la lutte des classes. C'est ça aussi qui fait la difficulté de pouvoir toucher...
On le dit dans certaines de nos chroniques, hein, comme dit, arrêter de consommer tout et n'importe quoi, n'importe quel moment, enfin bref, c'est ça en fait, c'est la consommation, c'est l'accumulation de biens. Avoir 15 paires de pompes, 3 voitures, des vêtements, on peut jamais en porter qu'un. Je veux dire, bon, alors il y en a un au sale, hein, puis il y en a un qui est dans l'armoire. Voilà, c'est bon, on a fait le tour du truc.
C'est vrai que, l'impression que l'amélioration des conditions de vie, ça a enlevé tout esprit critique et tout recul.
Ouais, ouais. Hein, oui,
donc,
oui.
Et ça pourra nous faire paraître comme archaïque parce que notre fonctionnement est horizontal. Non pas vertical, avec des chefs qui décident à nos places. Alors c'est vrai que les prises de décision verticales et les commandements autoritaires, c'est pas d'hier non plus. Donc c'est ce qu'on finit pas par s'habituer. Est-ce que certains, justement, finissent pas par s'y habituer et l'accepter?
Probablement, mais on n'est pas tous dans ce cas-là, parce qu'on est tous... la preuve, c'est qu'on est là autour de cette table et dans ce studio, et qu'on n'est pas les seuls, heureusement.
Et puis qu'on est sur Radio Libertaire, donc ça fonctionne aussi bien avec des animateurs, et des animatrices, techniciens, techniciennes, et des auditeurs et des auditrices.
Voilà. Donc non, je pense que... Alors on n'est pas légion, ça, c'est une évidence, parce que sinon...
On l'a jamais été. Ben, je crois, j'avais lu...
On n'est pas légion, mais on est visible.
Ben, on est toujours là.
Ouais.
Et puis... Alors ouais, c'est ce qui fait notre particularisme. Mais là, je vais revenir sur le nombre. En 1926, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas tant de syndicalistes révolutionnaires que ça, quoi. Alors bon...
Mais la souffrance ouvrière
est grande. En 46, on a des chiffres. Après, est-ce que les chiffres sont bons? J'ai vu certains documents de la CNT où ça monte à près de 90 000, le cumul, avec des grosses formations syndicales, et puis l'autre plus réduites. Bon, maintenant, on est tous réduits. Mais ça n'a jamais été super. Ça n'a jamais été les effectifs de la CGT, y compris à l'époque. Donc, on n'a jamais été super nombreux.
Alors, la question de se poser, c'est est-ce que ça ne fait pas peur aux travailleurs d'aller jusqu'au bout d'un projet politique qui va peut-être les priver d'un confort, le confort matériel, enfin, en tout cas celui qu'ils connaissent en tant que... membre de la société de consommation ou...
Et surtout qu'on est sur deux tableaux. On est sur sur l'idéologie, donc la transformation de la société, mais on est aussi sur le terrain et sur l'instantanéité, on va dire. Donc effectivement, pour pouvoir faire la révolution sur les bases syndicales fédéralistes, bah, il faut déjà mettre la main à la pâte dans la boîte. Et là, c'est autre chose, ça. C'est-à-dire, ça veut dire s'exposer. Et est-ce qu'effectivement, quand on jouit déjà d'un certain confort, est-ce qu'on a envie de s'exposer pour que tout le monde puisse bénéficier du même confort que soi? Ça, c'est une question à se poser. En fait, il y a beaucoup d'égoïsme dans tout ça.
Dans
tous ceux qui font pas de syndicalisme révolutionnaire.
Et est-ce que finalement, alors d'égoïsme et puis d'opportunisme, parce qu'ils veulent bien... profiter, mais pas s'engager. Profiter, ce que Martine appelait à l'antenne...
Passager clandestin.
Passager clandestin.
Ça a toujours été, ça.
Oui. Alors, ça a été, mais... Enfin, moi, j'ai de plus en plus de mal avec ça. De plus en plus de mal. Après, c'est comment chaque militant le vit, chaque syndicaliste le vit, ça fait en... Moi, la crainte, c'est de se renfermer dans un microcosme militant, politique, et puis plus tenir compte de des autres, qui sont la grande masse des travailleurs un peu sans repère, quoi. Je ne dis pas qu'ils sont malheureux, mais qu'ils ont finalement ça leur convient comme ça, puisque sinon ils changeraient. Peut-être.
Ouais, bah.
Mais c'est,
oui,
vrai,
c'est
difficile. Alors, hein.
Difficile. Alors, c'est difficile, oui.
C'est une jachère, puis, on n'arrive pas à cultiver,
même
ça.
De toucher. Oui. C'est... Alors, peut-être que. Alors, tout à l'heure, je disais que le syndicalisme révolutionnaire, révolutionnaire à sa création, répondait un peu aux attentes, de toute façon, des travailleurs, des producteurs. Ah, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être à nous d'essayer de trouver les moyens de les intéresser. Alors là, les grandes manifs là qu'il y a eu, effectivement, ça permet quand même de toucher un petit peu de monde. Il faut savoir que la plupart du temps, dans les manifs, il y a très peu de syndicats qui distribuent des tracts. Hein.
Oui.
Et des partis politiques, et les syndicats, il y a que la CNT. Hein. C'est pas, ça fait pas légion. Donc on est le seul à donner. Des fois, ils sont plus ou moins bien faits les tracts. Hein, je sais pas. C'est toujours fait un petit peu à la va-vite et par. Ils sont faits, et ils sont faits par des travailleurs qui font ça en dehors de leur temps de travail aussi, sur leur temps de loisir. On fait ce qu'on peut. Mais ouais, peut-être que... Alors, je dis pas qu'il faut... Alors, le fond ne changera pas, et je souhaite qu'il ne changera pas. Mais on peut se poser la question, comment faire pour les interpeller? Parce que, alors, tout à l'heure, tu parlais un petit peu... Tu n'as pas dit comme ça, le dynamisme de la CNT. C'est vrai qu'on est... On est quand même partout. Moi, j'ai toujours trouvé que la CNT était partout. Donc, je trouve qu'elle s'épuise dans toutes les manifs. Mmh. Alors, c'est nécessaire qu'on soit là, qu'on appuie, qu'on soutienne, qu'on participe. Mais en fin de compte, on fonctionne qu'avec un réseau de militants. Mais c'est aussi ce réseau de militants qui fait qu'on a une reconnaissance. Mmh. Alors, pour ce qui est des entreprises, et puis, c'est un petit peu plus difficile. Même s'il y a des victoires. Hein, dans les EHPAD récemment.
Ouais, alors c'est en même temps c'est peut-être une nécessité parce que ça aussi la loi du nombre, la loi de la résonance un petit peu. Si si la CNT et les militants syndicalistes révolutionnaires n'étaient pas présents comme ça, même quelques-uns à chaque fois dans une cause, participer à animer une cause, co-animer une cause, est-ce qu'on serait toujours... d'abord, est-ce qu'on aurait toujours notre raison d'être, et puis est-ce qu'on serait toujours visible? C'est pas sûr. On serait réduit à ce que je disais tout à l'heure, une espèce d'enfermement, quoi, un groupuscule syndicaliste, un peu comme il y a des groupuscules politiques. ça serait dommage. Enfin, je veux dire, c'est pas le rôle d'un syndicat et c'est pas le rôle du syndicalisme révolutionnaire. C'est d'être dans la société, dans toutes les activités économiques, sociales et politiques de la société. Alors, avec la faiblesse de nos moyens, de reconnaître, mais putain, on ne peut être que là, quoi. On ne peut être que là.
Alors, le problème du syndicalisme révolutionnaire, ça repose quand même beaucoup sur la grève générale, sur le mythe de la grève générale. Et ça parle pas forcément. Alors déjà, la lutte des classes, ça parle pas. Mais alors, grève, non. Mais alors, grève générale, ça parle pas énormément à tout le monde. Alors, si, moi, j'ai entendu des collègues qui je bosse, qui disent qu'effectivement, pour la réforme des retraites, ils disaient, oui, il faudrait faire une grève générale. Mais chacun attend toujours que la grève générale commence par les fonctionnaires, par les routiers, tu vois, en fait, mais moi je vais pas le faire tout de suite parce que moi j'ai des mômes à faire bouffer ou j'ai un loyer à payer ou des crédits à rembourser. Et donc on attend un petit peu que ce soit les autres. Mais il n'y a pas derrière cette... Alors, si on peut vouloir la grève générale, mais sans avoir conscience que ça doit amener à la révolution sociale.
Oui.
Donc,
ça
fait, je veux bien la grève générale, mais il ne faut pas que ça aille trop loin.
Une satisfaction bien précise, c'est-à-dire l'augmentation de la recette, le retour à 62 ans, enfin, sur des barres. Ça, c'est une revendication raisonnable. Hein. On est d'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que le... Alors déjà, dans la plupart des entreprises, tu parles de grève. Tout le monde a peur. Ouais, chez moi, c'est flagrant. Grève. Plus personne dans le couloir.
Ouais.
Bon. Mais vous vous plaignez, ça fait déjà 20 minutes que vous me cassez les bonbons à couiner sur tout, il n'y a rien qui va. Bon, on s'organise, on fait en sorte que ça aille mieux. Et à ce moment-là, on porte des revendications. On porte des revendications, mais on s'organise pour ça.
Mais ça, c'est quel que soit le niveau d'instruction. Hein.
Ouais.
Dans ma boîte, c'est exactement la même chose. Les collègues qui demandent... En fait, ils ont accepté la délégation. Le pouvoir aussi. Donc, on va leur déléguer syndicaux. Ouais, quand est-ce qu'on va être augmenté? Pourquoi vous ne faites rien pour qu'on soit augmenté? Et là, tu l'as dit, attends, on va s'organiser tous ensemble. Et là, il n'y a plus personne.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, il faudrait... Alors, la grande force du capitalisme, c'est qu'ils ont les médias à leur service. Ils ont le pouvoir, hein, directement.
Les médias en est un. Enfin, les médias en sont un.
Oui, enfin, je veux dire, le pouvoir politique, économique et politique. C'est très difficile pour nous de lutter, nous, syndicalistes révolutionnaires, de lutter contre tout ça. Parce qu'on n'est n'a pas les mêmes moyens de diffusion. Et c'est pas facile de toucher toutes ces personnes qui devraient.
Ouais. Et d'autant plus que le c'est pas une revendication ponctuelle, catégorielle, qui est demandée, c'est de réorganiser la société en fonction des critères qui sont les nôtres. C'est ça qui fait peur. Et je le vois bien que les plus décidés de mes collègues, dès qu'on parle d'autogestion, de décision collective et d'application, ben, y a plus personne. On va peut-être s'écouter une petite musique. Avant de reprendre notre émission sur le syndicalisme révolutionnaire de la CNT, bien sûr. Yes.
Alors, qui vient-on d'entendre, camarade?
Eh bien, George Clinton,
Breakdown, c'est Breakdown. Le titre du morceau. Ouais.
Et le groupe, son groupe à l'époque, c'était, enfin, un de ses groupes, c'était Parliament. Voilà. Parliament.
Parliament, ouais. C'est un morceau de...
Alors, c'est un grand monsieur bien sympathique, je trouve toujours apprécié, moi.
Puis on aime bien les, on aime bien les déglingos.
Et puis il vieillit bien, je trouve.
Donc, bah, on vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire à l'écoute du monde merveilleux du travail et sur l'émission sur le syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme.
Absolument. Alors, Parliament, il faut dire qu'on ne l'a pas passé la dernière fois parce que c'était le thème de l'émission sur l'antiparlementarisme. Mais là, on s'est un peu fait plaisir.
Ben, on l'a pas passé parce que c'est moi qui ai merdé, j'avais pas le conducteur les yeux, donc pour ça, la technicienne a été obligée de mettre un morceau qu'on avait déjà passé en fonction de.
Enfin, bref. Voilà, on s'y retrouve.
Ben oui. Mais de toute façon, on aime bien, c'est culturel aussi.
Ben oui. Partager des moments de plaisir.
Oui. Alors c'est de l'anglais, mais bon. Oui.
Nous reprenons le cours de notre émission, donc après cette petite intermède musicale. Alors, les spécificités du syndicalisme révolutionnaire et de l'anarcho-syndicalisme, c'est aussi l'autonomie vis-à-vis de l'État. Nous vivons de nos propres deniers. Nous vivons de nos propres deniers. Alors, ça fait toujours mal, quelque part, de se dire que on finance aussi, par le biais de nos cotisations, l'existence de syndicats auxquels on n'adhère pas. Alors, nous, on a un fonctionnement autonome, hein, on a des cotisations qui servent à notre syndicat à vivre, à agir, à se développer, à développer son action, sa pensée, etc. Et en même temps, comme on est des travailleurs, on paye des impôts et ces impôts servent à financer des structures qui ne sont pas des structures amies. Je ne voudrais pas dire ça. Si.
Bon. On dit ce qu'on veut.
C'est pas des structures. C'est pas des structures ennemies non plus, mais pff, voilà quoi. Ça pique. Ça pique. Donc, autonomie vis-à-vis de l'État, nous au moins, on peut dire que comme l'État est un patron, comme les autres, il a la double casquette à la fois de se prévaloir d'une à la fois comme patron, parce qu'il emploie des fonctionnaires, mais aussi comme espèce de. D'entité morale au-dessus de la mêlée, enfin, mais c'est faux, c'est avant tout un patron, et ça nous, je trouve ça toujours un peu gênant de payer pour ces syndicats avec mes impôts, enfin, donc nous on est autonome, voilà. On est autonome vis-à-vis des partis politiques, parce que je n'adhère à aucun parti politique. Qu'ils aillent tous crever. Ça, c'est personnel.
Ah oui, non, moi non plus.
Voilà. Et puis, je n'ai jamais fait, donc ça n'a pas changé de main.
Moi, je ne vois pas je vois pas l'intérêt d'être syndicaliste révolutionnaire. Avec effectivement tout ce que tu as rappelé, l'anticapitalisme, la lutte des classes, l'action directe, la grève générale, l'autogestion, blablabla, blablabla, le refus des permanents, et puis d'être adhérent à un parti qui va participer à des élections, c'est complètement antinomique. Donc, pourquoi pas? Mais bon, ça reste...
Ouais, d'autant plus que...
C'est absurde, tu vois.
D'autant plus que, comme on est aussi anti-parlementaire, enfin, moi je suis aparlementariste,
ouais. Oui, parce qu'on en a parlé lors des précédentes émissions.
Ah, parlementariste, donc, je présente à des élections, mais pourquoi faire, quoi? C'est pas comme ça qu'on. Ça fait pas partie du projet de société, du projet politique et social, économique de la CNT. Donc, voilà. Donc, camarade qui n'est pas encore à la CNT et qui est égaré en tant que libertaire dans d'autres structures, ni ennemi, ni ami, mais bof, venez rejoindre la CNT. Autre...
Et puis restez-y, sur. Restez-y. Non, mais le, moi, je trouve que la difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'avoir pas mal de turnover aussi. Ouais. Alors que des camarades changent de région, mais
différent.
Voilà. Mais que faut quand même. Moi, ça fait que 25 ans que je suis à la CNT Vignoles. Donc j'ai vu passer un certain nombre de personnes qui font leur classe en fait dans le syndicalisme révolutionnaire. Ils font leur classe, mais ils s'arment. Et après, hop, ils rejoignent d'autres syndicats. Alors, ils vont pas transformer les autres syndicats. Alors, ils vont être armés, ils vont avoir, ils auront appris, c'est pas qu'ils auront appris, mais ils auront mis en pratique l'action directe, tout un tas de choses. Mais après, ça va être au service d'autres syndicats, et des fois, Et de leur propre carrière, ce que j'ai on a connu. J'ai encore dit à un camarade du STE 93 il n'y a pas longtemps. je vous fais la confidence, parce que comme je dis syndicaliste révolutionnaire et que ça englobe les deux terminologies, et qu'il dit « Ah oui, mais toi t'es syndicaliste révolutionnaire, mais moi je suis anarcho-syndicaliste. » Alors je lui ai répété, je lui ai rappelé une petite anecdote avec notre ami Joseph.
Mais,
tu te rappelles, toi, c'était pas son vrai nom. Hein, qui m'a fait la morale sur la distinction anarcho-syndicaliste. Et lui, il a quitté la CNT pour rentrer au PCF. Oui. Il passait 2 ans pour rentrer à la CGT et gravir les échelons. Et maintenant, il est à la Fédération de l'hôtellerie. Donc moi, j'aime bien qu'on fasse la morale.
Oui. Mais qu'on l'applique aussi.
Mais qu'on l'applique. Et voilà, c'est la valeur de l'exemple. Voilà. Donc moi, les dialecticiens, les intellectuels, les trucs, c'est bien, il en faut. Mais
c'est pareil, c'est
mais sans, voilà ce que j'en pense.
Ça en fait pas d'honnêtes gens.
Comment
on dit
Alors que le copain du STE 93, il n'était pas dans cette. Il n'était pas dans cette optique. Et ça, je le provoque, il me provoque, c'est normal.
Oui, car la finalité, donc l'absence des négociations, contrôle des négociations par la base, par exemple, aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on doit tous participer et vérifier que la parole d'un mandaté, et non pas d'un élu, a bien été portée. Et la parole du mandaté, c'est la parole de la base, finalement, qui envoie l'un d'entre eux pour...
Alors, le mieux, c'est... Effectivement, il y aura toujours des personnes qui vont être plus à l'aise pour jacter, pour se confronter à l'employeur, par exemple. Mais c'est bien d'être à plusieurs. C'est justement, ça évite. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris à la CNT en tant que syndicaliste révolutionnaire. Le but, c'est pas d'être d'être délégué, d'être mandaté, mais le but, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes se joignent à toi pour justement les discuter. Ça permet d'abord de montrer qu'il y a une force derrière soi, et puis ça t'empêche de dire des conneries. Parce que les copains qui sont là, ils t'écoutent. Si tu dis une connerie, ils te reprennent. Une connerie, c'est-à-dire que si tu vas pas dans le... Tu ne reproduis pas, effectivement, l'esprit, en tout cas, de ce qui a été discuté...
par la base.
À la base. Ils peuvent te dire, attends, c'est pas ce qu'on a dit.
Donc, la délégation plutôt que le délégué. C'est important, ça, parce que le délégué, très rapidement, quand vous êtes confronté à un patron et que vous avez l'habitude de négocier, vous devenez quelqu'un d'autre. Pour le patron et il le montre et il le fait savoir et son but c'est quoi, c'est de vous couper de vos camarades travailleurs en vous attribuant un statut que vous n'avez pas, qui est une espèce de intermédiaire entre la base des travailleurs et lui, cette très haute personne. Et c'est toujours piégeux, c'est-à-dire que ça tend, avec quand on n'y prête pas attention, ça tend à vous couper un petit peu des réalités.
et des choix, des décisions de la base.
Et surtout quand on est souvent en réunion avec, ouais. Et même parfois trop souvent en réunion avec des directeurs ou des PDG, on finit par, je dirais pas épouser leur point de vue, mais peut-être une sorte de communion d'esprit.
C'est un syndrome de Stockholm.
Ouais, c'est ça. Et s'il n'y a pas la base à chaque fois, si tu n'es pas en restant en contact avec la base qui te reprend, tu peux vite pas perdre les pédales. Mais...
Alors ça, c'est une bonne, c'est un bon axe, c'est la délégation plutôt que le délégué. Ça, c'est quelque chose à travailler dans les entreprises. Malheureusement, il faut être plusieurs.
Le problème qui se pose, on peut être plusieurs. Parce qu'en fin de compte, le but, c'est peut-être un peu de faire comme les soviets. Tu travailles dans l'entreprise. Quand je dis les soviets, c'est pas les soviets de l'URSS. Hein. C'est les soviets tels qu'ils ont pu être conçus à Kronstadt, par exemple. Entendons-nous bien.
C'est un conseil ouvrier. Hein.
Voilà. T'es pas forcément adhérent. Tu fais partie de la boîte. On prend en compte ton avis. Le problème, c'est que nous, il y a deux aspects, il y a l'aspect syndical et l'aspect travailleur. Et donc, en tant que travailleur, oui, on peut avoir l'avis de la base. Après, il faut que ça corresponde quand même un petit peu aux visées syndicales, ou syndicalistes révolutionnaires.
Ouais, bien sûr.
Moi, je trouve qu'il y a un petit peu le cul entre deux chaises. On ne peut pas juste demander des améliorations de conditions de travail. Il faut que ça dépasse aussi tout ça.
Ouais.
Donc, alors, le problème, c'est que quand on est... si je reprends le soviet, le conseil d'atelier, d'usine, t'as pas besoin d'être adhérent. Tu sais ce que t'as à faire, tu connais ton boulot, tu sais ce que t'as à dire, tu sais comment tu vis. Le problème, c'est que dans les syndicats réclament une adhésion. Et l'adhésion, c'est pas juste donner de l'argent. C'est donner de l'argent pour financer le syndicat, mais ça te permet aussi de... C'est pas que ça te responsabilise, mais ça t'engage aussi.
C'est un engagement, l'adhésion. C'est-à-dire que c'est participer à des actions, c'est participer à des émissions, c'est participer à des manifs, c'est participer à des distributions de tracts, c'est participer à des actions syndicales boîtes.
Et puis dans les syndicats autogérés comme le nôtre, c'est pas pour faire vivre des permanents syndicaux. C'est vraiment pour alimenter, pour devenir une force économique, entre guillemets, en tout cas, force qui nous permet de se battre contre les actions juridiques du patron, et pas que, parce que tu vas coller des affiches, tu vas avoir la mairie qui va te tomber sur le dos, ça nous arrive aussi. Voilà, mais tu t'engages à soutenir, à apparaître quelque part.
C'est des points qui doivent amener à quoi, à la gestion des luttes. C'est-à-dire que ça, c'est un deuxième temps, si je puis dire, parce que là, c'est vrai qu'on en est encore finalement dans cette situation que tu viens de décrire aujourd'hui. Ça nous renvoie à ce que tu disais, à la question que tu posais. Est-ce que on est en adéquation? Est-ce qu'on est à
en
ce
phase.
Moment de phase? Malheureusement, non. Et ce moment de phase, ça permet de construire l'autogestion des luttes. Et pour qu'elle soit efficace, faut faire nombre. On n'y est pas. Quoi.
Alors le syndicat, ça a aussi une vocation de formation. Alors, il n'y a pas que le syndicat. Normalement, ça devrait être l'union régionale ou l'union locale. C'est le principe des bourses du travail.
Là aussi, c'est déjà simple. Ça synthétise, si tu veux.
C'est bien de laisser s'exprimer tout le monde, se dire vous êtes derrière moi, on y va, je vais au casse-pipe, et vous me soutenez. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même plus confiance aux personnes qui adhèrent au syndicat auquel j'adhère moi-même. Plutôt qu'à des personnes qui me disent ouais, vas-y.
Devant, avance, on te suit.
On est d'accord que tu fasses ça, mais nous, on s'engage de rien. Et puis après, on pourra dire non, je ne suis pas adhérent, moi. Donc, c'est un petit peu. Dans le pratico-pratique, on a quand même. Moi, j'ai des questions, je me pose des questions. Et je ne vais peut-être pas forcément toujours casse-pipe. pour des personnes qui veulent pas d'ailleurs. Bon, moi il y a pas de réunion type soviète, tu réunis tout le monde un coup de sifflet puis mais qui viennent on va tout casser, on n'est pas comme dans la grève hein des Einstein. On est loin de tout ça.
Ah bah.
Quand tu leur dis venez, coup de sifflet, tout le monde se barre. Bon, enfin bref, bon. Mais bon, n'empêche que ouais, on est en cul entre deux chaises entre essayer de faire des adhérents pour les, et les former, et puis les faire agir dans la boîte, qui n'est pas forcément totalement formateur non plus. Hein. Ça leur fait prendre des responsabilités, mais c'est limité aussi. Et puis moi, je te dis, il y a une question de confiance. J'ai quand même plus confiance en ceux qui adhèrent.
Oui, oui, ça va sans dire, mais après, c'est le... En fait, c'est le... Je crois que le point d'achoppement, il est plus lent de ça, c'est... Comment amener les salariés lambda quoi, à prendre conscience que il y a une nécessité de changer de modèle économique, politique et social. Parce que là, c'est une lutte à mort contre la société de consommation. Parce que le capitalisme, c'est pas autre chose. C'est de faire en sorte que, ce que je disais tout à l'heure, que tu aies besoin d'une 27e paire de chaussures, d'une 53e chemise, d'un... Enfin...
Mais un autre problème aussi auquel on est confronté, parce que là, de ce que je vous dis, effectivement, l'adhésion, machin, fait bouger les salariés, ça c'est dans le cas où il n'y a qu'un seul syndicat. Or, dans les boîtes, il y a rarement qu'un seul syndicat. Souvent, il y en a cinq. Voire plus, hein. Il y a des boîtes où il y en a une dizaine. Là, c'est difficile, parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes visées.
Ah bah oui, c'est l'électoralisme. C'est se placer pour la plupart de ces cinq centrales.
Oui, non, mais même si tu prends la décision, tu rassembles un certain nombre de... Alors là, j'en reviens aux adhésions, hein, à la confiance des camarades qui adhèrent. Tu rassembles du monde, on prend une décision collective... Mais les autres syndicats qui participent n'ont pas les mêmes visées, n'ont pas les mêmes orientations politiques et jusqu'à quel point, même s'ils sont syndiqués, jusqu'à quel point tu peux leur faire confiance. Tu as assisté à des réunions de CE à l'époque T'as bien vu que...
plutôt.
J'ai fait des protocoles et des trucs... bonjour, hein.
Très rapidement. Mais,
et ça te... Tiens, je lisais un truc, justement, je sais pas les... sur le syndicalisme en 36 pendant le Front populaire, il y avait déjà des conflits dans les entreprises entre les syndicalistes révolutionnaires et les syndicalistes révolutionnaires de la CGT-SR et les syndicalistes de la CGT qui pouvaient être syndicalistes révolutionnaires aussi mais qui appartenaient à la CGT. La CGT était déjà beaucoup plus importante que la CGT-SR, donc il y avait des conflits sur le comment on appuie les travailleurs en grève, en lutte, en tout cas, en lutte. Et ça se passait très très mal entre CGT et CGT-SR. Et même, c'est Bénard, donc en 36, qui a envoyé une lettre à Jouot. Et en disant, voilà, on est camarades, donc on doit se lutter ensemble. Et Jouot a répondu, beaucoup plus laconiquement, oui, mais nous, on ne peut être que, en gros, que camarades avec ceux qui soutiennent l'unité ouvrière. Voilà la réponse. Donc, en gros, c'est. Vous nous bouffez le cul ou continuez à vous taper dessus, à vous faire chier. En fait, la CGT déniait l'existence de la CGT-SR dans les boîtes, quoi. On peut retrouver ces documents-là, hein, on retrouve tout ça dans le combat syndicaliste des années 30.
Cette situation, on l'a connue, moi j'ai moins de CNT que toi, parce que ça fera 22 ans.
Je parle de 36, c'est que j'y étais déjà.
J'ai bien pour ça.
J'ai bien connu Pierre Bénard.
J'ai bien compris. Moi, simplement, ça va faire 22 ans cette année. J'ai pas connu Pierre Bénard. Mais par contre, j'ai connu effectivement quand on allait se frotter à la CGT du Livre.
Est-ce qu'on a été à un moment donné tenté de soutenir des camarades qui s'implantaient dans le livre parisien? Ils avaient en fait la même attitude que celle que tu viens de décrire concernant.
Surtout qu'ils.
Mais la même démarche en fait, la même démarche.
Alors moi j'ai toujours entendu dire que dans le livre ils étaient. Mais c'est des camarades. En fait, même à la CNT Vignol, il y avait deux tendances. Il y avait ceux qui disent, on va s'implanter, parce qu'on est syndicaliste révolutionnaire, on va s'implanter dans le livre. Et ceux qui disent, mais non, ça c'est la chasse gardée de la CGT, puis eux c'est des camarades, ils sont syndicalistes révolutionnaires, tout ça, ça fait des. Mon cul.
Sachez que pour, à l'époque, pour travailler dans une imprimerie, il fallait adhérer à la CGT, ça vous facilitait la signature d'un contrat. Mais si tu n'adhérais pas à la CGT,
Non, mais c'était comme ça. Alors là, ça date de ce que tu me dis, c'est peut-être récent. Enfin, ça remonte à moins de 20 ans, une vingtaine d'années, mais voilà. Mais c'était, ça a toujours été comme ça. Puis dans toutes les industries, en fait. c'était bien ça le problème. C'est un peu ce que voulait dire Jouot. C'est soit tu prends ta carte à la CGT et tu nous suis, ou tu fermes ta gueule, quoi.
Donc, voleur, rien de neuf sous le soleil. On ne peut pas composer avec ces gens qui sont autre chose.
Ah ouais, puis j'ai pas envie.
Non, c'est bon. qu'est-ce qui nous caractérise encore? Alors, ce qui nous caractérise, c'est je pense que c'est l'aspect libertaire. Libertaire. Alors, il y a différents types, différents degrés. On n'a pas tous non plus.
Le syndicalisme révolutionnaire, tu peux avoir plusieurs tendances.
Ouais.
Aussi, tu en as qui vont être plus proches de Bakounine, d'autres de Pierre Bénard, d'Émile Pouget. Je sais pas, et d'autres qui n'ont pas de. En arrière-pensée des personnes. Et Bakounine, ça revient quand même. Alors, des fois, c'est pas forcément super bien interprété, mais ça revient quand même souvent. Enfin, souvent. J'ai déjà entendu, en tout cas.
Et puis, certainement, c'est Blanqui.
Ah, bah oui, mais là, c'est. Bah oui. Il y en a qu'un.
Il y a Blanqui, non, il y a deux frères.
Oui, non, mais aujourd'hui, il y en a qu'un. C'est moi. C'est aussi pour vous emmerder. Oui. Ce que je voulais dire aussi, ce qui nous caractérise, c'est ce que je voulais aussi évoquer tout à l'heure, c'est qu'on est un petit peu sur tous les fronts aussi, en fait. Tu vois, on est de toutes les manifs. C'est ce qui nous épuise aussi. C'est peut-être ce qui nous empêche de fonctionner sur du fond, sur des grandes idées de fond. En fait, on est toujours dans l'immédiateté.
Ouais, c'est aussi ce qui alimente. C'est parce qu'on est on n'est pas axé sur. Alors voilà, c'est qu'on est aussi, on a une dimension politique. Et le syndicalisme, c'est politique. C'est pas un parti politique. C'est pas un courant politique. C'est politique.
Ça peut être considéré comme le parti du travail. C'est pas un parti politique constitué comme les bourgeois, ou les républicains bourgeois le constituent, effectivement.
Pour moi, la CNT est politique, le syndicalisme révolutionnaire, l'anarcho-syndicalisme, politique. Ça ne peut être politique, et la politique, c'est tout. C'est-à-dire, c'est l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect écologique, l'aspect. C'est tout. Donc forcément, on est partout. Alors forcément, ça épuise.
Alors je voulais dire aussi, puisque je parlais, je ne sais plus si j'ai évoqué à l'antenne la valeur de l'exemple, mais c'est bien, effectivement, pour nous de dire faut faire la révolution, faut s'organiser comme ci, comme ça. Après, effectivement, il y a la pratique. Donc il y a les syndicats qu'on fonctionne sur le modèle de l'autogestion et de non-permanents syndicaux. Mais il y a aussi les actions. Alors, il y a les actions où on va de solidarité, où on va soutenir les sans-papiers, les chômeurs, les manifs de chômeurs, ou bref, tout un tas de. Mais il y a aussi ce qu'on essaie de construire au sein de l'Union régionale, par exemple, Alors, je parle que de la région parisienne, je ne vais pas parler des autres régions, hein, j'y vis pas, on va déjà faire. Et effectivement, il y a aussi tout ce travail d'éducation par les projections de films, de débats, donc de rencontres entre personnes qui sont à la fois de la CNT, mais qui ne sont pas tous du même syndicat, et des personnes qui viennent de l'extérieur. Ça peut être des camarades anarchistes. Ou même qui ne sont pas politisés, des gens du quartier. Et il y a des actions. Alors, c'est pas que du débat, de la projection et du débat. Alors, il y a aussi des concerts de soutien, ça qui ramène aussi un petit peu du monde, qui fait connaître. Et puis, en fait, ce qu'il faut, c'est créer de la vie dans le et sur les bases qu'on leur revendique et qui fonctionnent puisqu'elles existent. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a des syndicats qui font de la vente, qui ont des bonnes bibliothèques, mais enfin qui font le Subbook par exemple. Voilà. Donc c'est pas juste sur le terrain syndical on va de, mais c'est essayer de construire un projet de société. J'ai trop parlé.
Tu veux non, c'est très bien. Je suis subjugué comme toujours. On va peut-être passer à des annonces militantes.
On va passer à des annonces militantes.
Parce que là, on a plein de choses importantes à dire. Des annonces que moi, je suis importante, mais tu me diras si...
Mais oui, mais ils sont importantes, mais oui.
Voilà.
Alors, est-ce qu'on fait quand même un petit tour d'une petite bibliographie pour terminer, pour conclure ?
Bien sûr.
Moi, j'ai relevé quelques ouvrages. Ils ne sont pas tous... On va commencer par Pierre Bénard, puisque Pierre Bénard est un des fondateurs de la CNT française. Il est passé de la CGTSR à la CNT en 46. Bon, il est mort en février 47, mais mais quand même. Alors, il n'a pas créé tout seul, hein. Il y avait d'autres syndicats. Lui, c'est la personnalité. Justement, c'est peut-être ça aussi qui nous manque aujourd'hui, peut-être d'avoir des personnes. Alors, c'est peut-être ce qui fait notre force et puis notre
des personnalités, notre mais pas des leaders.
Ouais, des personnes qui seraient capables de. Alors, on a des revues, hein, quand même, mais.
Donner une dynamique.
Donner une dynamique sur.
Je sais pas.
Bon, enfin bref. Bon, en tout cas. On a en tout cas ceux qui ont écrit par le passé. Donc, on a Pierre Bénard, qui a écrit son premier, c'était Les syndicats ouvriers et la révolution sociale, qui a été suivi après du Monde Nouveau, qui a été réédité il y a peut-être 2 ans, 3 ans maintenant par la librairie du Monde Libertaire, donc là on pouvait encore le trouver. L'éthique du syndicalisme, c'était ça édité par la CNTRP, je suis pas certain qu'on le trouve. C'est le syndicat ouvrier, la révolution sociale, ça va être difficile aussi. Émile Pouget, l'action directe, donc c'est 1910, mais c'est toujours ça vous pouvez le trouver. Alors j'ai pas noté les éditeurs. Vous allez chez Publico,
hein. L'éditeur, ouais. C'est pas important puisque c'est tombé dans le domaine public maintenant.
Ouais, mais ils sont pas 50 à sortir l'action directe d'Émile Pouget. Le sabotage, un tout petit livret qu'on trouve facilement à la librairie Publico aussi. La Confédération générale du travail et le suivi du Parti du travail. ça c'était édité par la CNT Région Parisienne. Avoir du mal à le trouver aussi maintenant. Et de Mercier et Griffuel, il y avait anarcho-syndicalisme et syndicalisme révolutionnaire. Date des années. Sorti dans les. Fin 70, semble-t-il. Et. Enfin, il était mort, Griffuel, déjà, mais bon. Et il y a quand même un ouvrage de Georges Sorel, ses réflexions sur la violence. Ça, vous pouvez le trouver aussi. Alors, Georges Sorel n'a pas été. Il a écrit sur le syndicalisme révolutionnaire. C'était. Un admirateur de Pelloutier, mais il n'a jamais adhéré au syndicalisme révolutionnaire, à la CGT en tout cas. Voilà. Mais c'est intéressant de le lire, c'est intéressant de... Voilà.
Ça me fait, c'est parfait, ça me fait une transition en or, parce que la première annonce va concerner Publico en fait d'été, grande braderie de livres, donc ceux-là en partie, et de disques. Alors, je suis moins fan de disques, mais il en faut aussi. Samedi 24 et dimanche 25 juin, de 11h à 19h. Donc, librairie Publico dans le 11e.
Métro République.
Voilà. Il y a des animations aussi qui...
Oui, mais je n'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes pour voir de près.
Voilà, bah, vous allez là-bas, moi j'ai mes lunettes mais dans mon sac, voilà. Donc, voilà. C'est en tout cas le samedi 24 juin à partir de 14h 19, jusqu'à 19h. Et puis le dimanche à 16h. Et ah non, non, mais ça c'est... Oui, enfin bref. Non, c'est, tout ça c'est de 11 à 19. Et voilà. Non, le samedi et le dimanche c'est de 11 à 19. Et les animations, c'est justement à 14h. Bah, il y aura des animations à 14h, à 15h. Et le dimanche c'est à 16h. Et puis ça, et voilà. Et 18 à 21h. En fait, il n'y a que des animations. Vous y allez, passez votre journée là-bas.
Voilà. Voilà. Et puis achetez les livres. Notamment ceux de la liste.
Si vous les trouvez.
Ouais, faites un effort. Alors, autre rendez-vous important, le 23 juin à 10h30, place de la Sorbonne à Paris. Nous en avons déjà parlé ici à l'antenne. La flamme olympique est un symbole réactionnaire. Éteignons-la. Donc, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dévoile le trajet de la flamme olympique en France. Rassemblons-nous et faisons-nous entendre par saccage 2024. Le rendez-vous est pris le 23 juin, 10h30, place de la Sorbonne, avec des casseroles pleines d'eau, remplies d'eau, pour éteindre la flamme. Une fois qu'il est vide, après on peut faire tac, tac, tac.
Et puis t'as intérêt à te barrer surtout. À courir vite. C'est plutôt pour les jeunes. Plus anciens, vous allez chez Publico. Comme moi, par exemple. Ouais, alors, moi, je vous ai souvent parlé d'Yvan, qui était en prison. Et ben, sachez que depuis le 12 juin, Yvan est sorti. Voilà, mais il est sous contrôle judiciaire. Avec les restrictions sont interdiction de se rendre en Île-de-France, interdiction de sortir de France métropolitaine, pointage chez les gendarmes une fois par semaine, et il doit remettre au greffe du tribunal son passeport et sa pièce d'identité. C'est sympa comme... Bon, vous pouvez aller sur Internet pour le... avoir plus d'infos sur les agendas de lutte, l'AMI et puis Paris Lutte Info, vous allez trouver tout ce qui concerne Yvan Aloco, que vous pouvez contacter quand même, puisque avant il avait un numéro d'écrou. Maintenant, on peut. Il a une adresse mail qui s'appelle, en un seul mot, du fond du placard, @riseup.net. Voilà, du fond du placard, avec 2D donc. Riseup.net. Voilà, bon. Vous pouvez lui écrire. Vous dites que c'est le monde meilleur du travail qui vous a rejoint.
Camarade est sorti du placard. Il y en a un qui sort du
coma.
Serge, dont on a déjà parlé à l'antenne, personnellement, je suis super heureux qu'il émerge. J'espère que.
Et qu'il puisse écrire, visiblement. Puisse écrire, puisque c'est une lettre
qu'il retrouve ses moyens, à la fois physiques. Intellectuel, etc. Je vais vous lire quelques passages de son courrier. « Salut tout le monde, je m'appelle Serge et j'ai été gravement blessé, comme beaucoup d'autres, à la manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline du 25 mars 2023. J'ai été atteint à la tête par une grenade, probablement tirée en tendue par un gendarme équipé d'un lanceur de grenade Cougar. J'ai subi un grave traumatisme crânien qui m'a mis en situation d'urgence absolue, situation aggravée par le blocage de ma prise en charge par les secours durant la manifestation. » À noter, à répéter ça aussi. Après un mois de coma artificiel et 6 semaines de réanimation, j'ai été transféré dans un service de neurochirurgie, puis en centre de rééducation. À l'heure actuelle, je ressens d'énormes progrès dans ma faculté à bouger, manger et tout simplement échanger et réfléchir. Le chemin va être extrêmement long, mais je suis déterminé à tout donner, à me battre pour récupérer ce qui me constituait, tant physiquement que mentalement, ce que je disais tout à l'heure. Je le fais évidemment pour moi, mais aussi parce que je pense que refuser d'abdiquer, refuser d'être écrasé par la machine répressive est une nécessité politique à l'heure où les États font le pari de la terreur et de notre passivité. Je vous renvoie aux chroniques ACAB.
À CAB.
Voilà. Et je ne dirai pas la suite, mais c'est une bonne nouvelle.
Ben oui, c'est plutôt encourageant. Et puis, on est content que... On aurait préféré que ça ne se passe pas.
Oui.
Mais ça s'est passé. Donc, vous êtes toujours sur Radio Liberté à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail. Et on vous fait quelques annonces. Quand est-ce qu'on va retrouver la CNT sur les ondes de Radio Libertaire? Eh ben, mardi 27 juin, on est le combien, là?
Nous sommes le 19.
Donc, c'est pas le...
Dans 8 jours, mardi prochain.
Voilà, ben, mardi prochain, voilà.
Demain.
Vous retrouvez, oui, dans 8 jours. Mardi en 8. Service public, voilà, c'est le quatrième mardi du mois, fait par le syndicat de l'énergie, avec notre camarade Bernard.
Ah, salut Bernard.
Avec sa hanche en plastique. je vais quand même vous évoquer que le deuxième mardi du mois, c'est les copains du STE 94, donc c'est Éduc 93. Et là, ça sera au mois de juillet. Est-ce qu'ils vont faire une émission, je ne sais pas. Hein, Éduc 93, c'est des profs. Va savoir, ils ne sont pas déjà barrés. Nous, on va se... on est toujours sur la radio. Donc, le 3 juillet, normalement, il y aura le retour de Michael pour faire un bilan des manifs unitaires. Et puis, voilà, on en tirer ce qu'on peut. Peut-être parler des Black Blocs, tout ça. Voilà. Juste un truc. Vous pouvez recevoir l'éco-syndical 6 qui est sorti il y a quelques temps, peut-être un mois, peut-être un peu moins. Il faut contacter le bureau régional parisien de la CNT par mail. Donc, c'est br.rp@cnt-f.org. Vous allez sur le site de la CNT région parisienne et vous pourrez effectivement vous procurer l'éco-syndical 6, c'est gratuit, sous format papier, et puis vous pouvez aussi sur le site normalement consulter les catalogues des éditions de la CNT région parisienne. Voilà. Tu voulais nous faire une annonce pour
importante, la dernière annonce pour moi ce soir, c'est une nouvelle victoire de la CNT contre Domus 6. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Les camarades de Toulouse. Alors, le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la résidence de Vinci de Blagnac, groupe Domus 6, ou VI, je ne sais pas, de l'ensemble de ses demandes et a confirmé la régularité des élections professionnelles que la CNT a largement remporté en novembre 2022. C'est une nouvelle victoire de nos camarades de Toulouse, de Toulouse, du syndicat CNT des industries et services de Haute-Garonne. Voilà. Et là, le syndicalisme révolutionnaire et l'anarcho-syndicalisme remportent des victoires. Et c'est bien de le dire, et ça fait du bien de le dire.
Oui, on va vous rappeler quand même, avant de nous quitter, les permanences syndicales des syndicats du 94, qui sont les vendredis de 17h30 à 19h30, sauf pendant les périodes scolaires et jours fériés, à la Bourse du Travail. Au premier étage de la salle, vous trouvez la salle CNT au 27 boulevard des Alliés à Choisy-le-Roi. Et puis les permanences sur Paris, donc le lundi de 14h à 17h au 33 rue des Vignoles, le mercredi de 17h à 19h et le samedi avec le syndicat unifié du bâtiment de 10h à 12h.
Camarades, ne confondez pas les permanences et les permanents.
Voilà, donc on vous salue tous et toutes. On se retrouve le 3 juillet avec Michael pour faire un bilan des manifs qu'il y a eu. Et puis, on va laisser la place au Proton Srebif. On lance le générique de fin.
Ciao. Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la
révolution.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Ce sont, comme vous l'entendez, grâce au générique qui court encore, c'est le proton qui se rebiffe. Et ce soir, nous allons discuter, comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, d'un de mon livre à moi, qui s'appelle « Comprendre nos choix avec la psychologie de la motivation » de Paul Diehl. Et ben, moi, l'auteur, c'est Jean-Manuel Trémont. Et je me suis dit que pour en discuter, eh bien, il fallait que j'en discute avec un vieil ami à moi que je laisse se présenter lui-même.
Bonsoir, moi c'est François Graner. Alors pourquoi est-ce que je suis là ? Parce que je suis fils d'une psychologue qui s'appelle Marie-Jo Graner et qui a été élève de Paul Diehl, le psychologue dont nous allons parler ce soir. Et donc ben, moi j'ai baigné un petit peu dans ce milieu-là pendant toute mon enfance. Ça n'a rien à voir avec mon travail. Je suis devenu chercheur scientifique en physique, donc rien à voir avec la psychologie. Mais j'ai toujours été intéressé par ça. Et quand j'ai croisé la route de Jean-Manuel Trémont et qu'on a commencé à en parler, ben, il en est sorti des choses.
Voilà, c'était ma vieille habitude de vouloir faire comprendre ce qui est parfois difficile à comprendre. Et il y a quelque chose qui m'a toujours un petit peu désespéré avec cette psychologie de la motivation, c'est que les textes qui la fondent ont été écrits par quelqu'un qui était autrichien de naissance, même si sa maman était répétitrice de français, même s'il a vécu la plus grande partie de sa vie en France, donc il parlait un français absolument excellent. Il a quand même continué à penser comme un autrichien, plus exactement comme un germanophone, tout simplement. Alors quand on pense comme un germanophone, mais qu'on écrit comme un français, bah, ça donne des difficultés. Et l'une des difficultés, ça a été en particulier le choix du vocabulaire. Et cette théorie de la psychologie de la motivation a été exposée avec un vocabulaire qui est parfois déroutant.